Chapitre 9. Les heures que je passais au bord des routes m'apaisaient. Je n'attendais rien, calme et tranquille. La suite viendrait à son heure. Depuis plusieurs semaines, je ne pensais même plus à mon devenir une fois rentré sur la terre de mes ancêtres. D'ailleurs, en avais-je le désir? Avais-je ce besoin de retour aux sources qui hante plus que nécessaire la plupart d'entre nous, comme si ne pas y penser relevait de la cour martiale? Il s'immisçait en moi une certitude nouvelle qui jusqu'alors me scandalisait. Un retour aux racines ne coulait plus de source. Je ne croyais plus à cette nécessité de se retrouver lié à je ne sais quelle destinée utérine. Passage obligé, début de la fin, bien au contraire. Les racines, à part me prendre les pieds dedans, m'étaler de tout mon long parmi les méandres d'un lointain passé, je ne voyais plus vraiment ni l'intérêt, ni le confort douillet pour m'y blottir dans de curieuses références familiales. Elles sont des salmigondis d'engueulades exagérées et de lâchetés égarées sous les tapis. Les secrets bien vivants se taisent, ne se partagent pas, les hontes assumées à noyer dans les larmes du groupe, les réussites de certains dont on s'enorgueillit, étendard au vent, tous ces actes incertains que le temps transforme en légendes glorieuses, tandis qu'il ne s'agit que de frêles entorses au cours habituel du quotidien, cimentent une forteresse branlante, un blason qui ne m'enchantait plus. « Patatrac !» disait le danseur en ajoutant « C'est dans la chute que l'on trouve son élan !» J'irai de rebond en rebond, où mes pas hasardeux me guideraient. Chaque petit caillou pointu m'indiquerait une autre direction. Probablement éloigné d'une famille nappée d'un halo de brume, de souvenirs distordus, de compromis arrangeants. Certes, j'aimais encore les souvenirs qu'elle m'avait laissés, les traces enfantines que des oreilles crédules sanctifiaient, admiratives, innocentes. Mais ce monde sans calcul, sans perversité m'excluait à présent. Parfois, pour ne pas m'engourdir, je marchais. Longtemps. J'attendais que mes jambes ne me portent plus. Ou plutôt je déambulais sans chercher le moindre but, sans fixer ma pensée. Vide d'idées, accessible au grand tout qui ne s'encombre pas de contingences. J'éprouvais le sens profond de la méditation. Enfin je comprenais sa suffisance, buvais son essence. Pourtant je n'étais pas prêt pour m'en suffire, bondir aux frontières du temps, des limites. Pas assez armé, blindé, lavé d'envie, pour m'aborder sans crainte, me vivre moi-même. Être méditant menait bien au-delà de la méditation. Le véhicule, une fois lancé, m'entraînerait bien loin, à la bordure du pénétrable, du sens commun, du défini. Envahi souvent d'un plaisir extatique aux confins d'une éternité, à l'orée d'un bonheur plein, d'une surprise oubliée de la petite enfance, je pressentais confusément l'entièreté d'un monde différent. Mais je devais poursuivre ma route, sans compter mes pas, aller au-devant des autres, m'en imprégner, m'en suffire d'abord, quitte à me trouver dans cette infinie solitude tellement éloignée des vicissitudes quotidiennes. Tellement rassurante, car à présent je n'avais plus peur, je ne détestais plus ces gens croisés au hasard. Un grand pas déjà. Ils n'étaient plus des encombrants, des gravitons inutiles et devenaient, au fil des rencontres, les briques manquantes. Me construire, bâtir une âme, terminer cette existence avec un sens, une profondeur qui, à présent, me manquait. Chaque rencontre me restituait, finalement, le meilleur de moi-même. Je devais le reconnaître sans pour autant en être redevable. Il s'agissait du sens de la vie, seul, irrémédiablement. Nul n'échappe à la direction qu'il doit prendre pour peu qu'il soit vigilant. Il était temps. Mes vies multiples, compliquées, me bloquaient les issues. Je cavalais de chimère en chimère, calme et tranquille. La suite viendrait à son heure. Sur le trajet Edmonton-Calgary, j'avais été agressé par deux gougnafiers ivres. Ils m'avaient dépouillé et rossé. Quoique n'ayant pas cherché à me défendre, je fus le premier surpris par ma réaction, ils me tabassèrent copieusement. En position fœtale, j'attendais la fin. Et ce fut long. Ils s'acharnèrent avec rage, vigueur, excités sans doute par mon apathie ou par mon silence. J'aurais peut-être dû dire « aïe !» ou alors mon accent ne leur plaisait pas. Un simple détail, une petite différence, suffisent en général pour justifier ces dérives, outrepasser le raisonnable. Le chiffon en boule attendait qu'il se fatigue. Je perdis connaissance avant le dernier round. Je m'éveillais glacé, gisant, à moitié cassé, disloqué sur la berme, sans effet, vêtu de peu avec mes yeux de pandrin pour chialer. Je devais avoir la gueule d'un hamster qui mâche de la gomme. Mon corps douloureux lançait des appels sans réponse. Assoiffé, je léchais l'herbe fraîche. Je ne grelottais pas à proprement parler. Il s'agissait plutôt de spasmes violents, d'une espèce de gégène intermittente m'annonçant de mauvaises questions. Je perdis de nouveau connaissance avec la conviction d'être au bout du parcours. À peine avais-je fermé les paupières, d'un brouillard diaphane, glissant lentement vers moi, puis d'un bond se fondant pour ne faire qu'un, d'une étrange netteté, tu vins à moi. Éblouissante lumière qui me prenait la main, me guidait vers les nourritures d'un passé gravé par le sang des souffrances, des cris de douleur, de cette voix si chère qui s'était tue. Tu m'avais dit alors, « Te souviens-tu? Vois-tu comme nous étions bien ?» Je répondis, « Comment oublier quand les larmes roulent en cascade de cristal, les âmes chantent à l'unisson, les corps se soudent jusqu'à la douleur, les regards fixent la même éternité. Comment ?» C'était bien avant ta disparition. Une semaine magique sur la montagne dans la vallée d'Aoste que je voulais te faire connaître. L'hôtel où nous crêchions à Breuil-Servigna, aussi accueillant que confortable, nous ayant reçus avec les égards réservés d'ordinaire à d'illustres personnages. Il y régnait un silence quasi religieux, le personnel attentif s'y déplaçait à pas feutrés. Le calme des lieux offrait à nos soirées une dimension mystique comme pour exagérer nos ressentis amoureux. Les repas du soir étaient servis par la maîtresse des lieux. Elle officiait de traits d'humour et d'anecdotes en grande prêtresse. Nous étions les rois du monde. Nous savourions ces plaisirs comme des corollaires à notre bonheur, si jeune, si fort, si présent chaque seconde. Nous vivions souvent surpris par sa vigueur, par nos troubles, par nos élans, par notre enthousiasme prégnant. Breuil-Servigna t'avait enchanté. Une station un peu désuète, un peu snob, un peu passée de mode, mais assez chic pour s'y attacher. Tu étais restée interdite face au Cervin, ma montagne préférée. Quelle allure! Nous étions heureux, emmurés dans ce paysage qui se brode à l'infini. Se tenir par la main pour s'emporter très loin, pour oublier les glissades grégaires, les réflexes pour plaire aux attentes. Je pressentais déjà que le Cervin serait notre image, notre référence, notre ciment. Toi, moi, lui. Et plus tard, Cortina d'Ampezzo, les Dolomites, merveilles des merveilles, ne nous firent pas la même impression. Au creux de mon univers noir, ton rire me sauvait d'une terreur, de cet au-delà fatal qui se dessinait, avec le pire pour se rester vivant. Mais ton rire tintinabulait comme par le passé. C'était rassurant de l'entendre, le Cervin sous le bras. J'avais suspendu mon vol, cherchant, je suppose, la meilleure direction quand, de l'autre côté, je sentis ma joue cuire. Quelqu'un me claquait avec application, avec la régularité d'un métronome. Enfin, le son vint. D'abord lointain, puis présent à me bouffer les tympans. Hey, « Hé, mec, réveille-toi, bordel !» Dans la nuit, un chauffeur crut voir dans la lueur de ses phares une grosse bête écrabouillée débordant sur la chaussée. Comme tout bon professionnel, il s'arrêta pour mettre de l'ordre avec l'espoir de profiter d'une opportunité de récupérer tout ou partie d'une viande goûteuse. Il ne trouva que moi, me vit mort un instant. Pour lui, avec le froid, ma gueule défoncée et ma tenue légère maculée d'hémoglobine, il ne pouvait en être autrement. Il eut la riche idée de le vérifier. Dès lors, il me frappa comme il l'avait vu faire dans les films en me hurlant dessus jusqu'à l'éveil. Un peu déçu de ne pas récupérer de la viande gratuite, mais au final content de son comportement de brave type. Il lui avait fallu courage et abnégation pour se charger de ce gars tout de frissons vêtu, hagard comme un enfant perdu au fond d'un bois, bien trop épuisé pour pleurer encore. Mes forces m'ayant abandonné, je m'étais laissé charger dans la cabine comme un sac, honteux, surpris d'être encore en vie. Après m'avoir saucissonné dans une couverture, il m'avait posé des questions d'usage. Ma vie, mon œuvre, qu'est-ce que je pouvais bien foutre là, à moitié à poil dans un état proche de la guenille. Je n'entendais rien, m'endormis nappé d'une chaleur bienfaisante, heureux de revenir à la civilisation. À quelques encablures de Calgary, je m'éveillai. Mon chauffeur grogna quelques mots. Il n'avait pas vraiment apprécié mon détachement. À l'évidence, il aurait souhaité plus de gratitude. Je lui devais la vie sauve, mais je souffrais, excluais d'office les conversations de salon, me concentrais sur mes douleurs pour mieux les maîtriser. Par la suite, je m'étais reproché cette attitude. Pourtant, je n'avais rien fait pour retrouver l'homme une fois soigné, le remercier, l'aider si possible, lui rendre service. Une ingratitude qui mérite un détour. Comment se fait-il que nous exercions notre sens de la justice en dépit du bon sens? Je n'ai qu'une seule réponse. Je crois que notre orgueil à ne pas vouloir être redevable nous pousse à ignorer la bonne fée qui nous a tendu la main. Parfois jusqu'à la mordre, histoire de l'éloigner, d'oublier qui nous sommes, de garder l'apparence. En bon samaritain, mon chauffeur me déposa aux portes de l'hôpital. Après avoir exhibé ma carte or planquée judicieusement dans mon talon, comme je l'avais vu faire dans les films d'espionnage, je fus admis. Une épaule luxée, un pouce cassé, le nez éclaté, la mâchoire fêlée et mon crâne traumatisé qui lançait des SOS m'incitèrent à prendre mes quartiers pour de longues journées. Malgré tout, les tonnes de patience, la nourriture curieuse, les doctes propos incompréhensibles pour un novice, l'odeur des produits médicamenteux, celle de la mort, les quelques cris parfois qui soulignent la raison du lieu, le séjour fut agréable. Mon voisin de chambrée était assez bavard. Ses propos appuyés de maximes qu'il jugeait indiscutables agrémentèrent le transit. Déjà atteint par un âge canonique, il se guidait, dans ce foutoir sans grâce, de règles précises, aphorismes, proverbes, comme tout ce qui se range dans la rubrique bon sens populaire. Il jugeait ses paroles explicites en exigeant écoute et crédit. Chacune de ses phrases sentences était dite en claquant du palais, comme il est coutumier de le faire pour un Écossais. J'avais un mal fou à le comprendre. Il m'observait, me scrutait parfois, comme le font certaines vieilles personnes, avec la volonté de percer des secrets, de savoir à qui elles ont affaire. Un con de bas inculte m'eût ennuyé. Ses longs monologues, ses phrases lapidaires, ses mauvaisetés, ses charges alourdies de fiel, de rancœur avec pour seul étendard des tonnes de lieux communs cent fois rabâchés, m'eût énervé. Mais l'homme gardait pour lui la bienveillance accordée a priori d'emblée à tout être humain, le crédit nécessaire à son bien-être. L'âge n'a pas le privilège du docte propos. Cependant, les épreuves ne sont que des expériences, puis ce que j'appris de lui, retint dans le futur. À l'évidence, il me serait impossible désormais de voir l'existence autrement. Mes douleurs s'estompèrent petit à petit. Je pouvais déambuler dans l'hôpital avec d'autres plaies vivantes. Nous parlions principalement de nos bobos, comme c'est l'usage dans ce type d'endroit, mais aussi de nos vies à l'extérieur. Comme des prisonniers qui comptent les jours en idéalisant la vie d'avant et la vie future. Des vies extraordinaires pour certains, ornées de quelques artifices pour d'autres, banalisées pour la plupart, affabulées pour tous. Le besoin de joliesse, quand on souffre, s'impose comme une règle. Nous devisions entre collègues d'infortune à l'ombre des distributeurs. À tour de rôle, d'une certaine manière, nous participions au bon fonctionnement de l'établissement. Les sodas, friandises, trouvailles industrielles, permettaient aux malades, outre de se sustenter ou de passer le temps, de générer, voire d'accélérer leurs addictions au sucre, au gras, aux additifs réputés cancérigènes. L'absence de fibres aussi. Heureusement, sur place, les patients, qu'ils soient diabétiques, cardiaques, cancéreux, avaient quantité de services à portée de santé. Une fois à peu près guéri, il vaquait de nouveau et à tour de rôle veillait au profit en libre service avec la bénédiction d'un système. Et avec ceci, une barre et ça repart. L'entourage était agréable, le personnel souriant, gentil, serviable, malgré une surcharge de travail. Comme je ne me plaignais jamais, le service m'aimait bien. Parfois je me sentais un peu bizarre, je me demandais bien pourquoi tant de prévenance à mon égard alors qu'en fait, je n'étais qu'un pion parmi d'autres. Je dus me plier à une réalité. Tout, et c'est heureux, ne se monnaie pas. Vers la fin de mon séjour, nous avions, mon camarade de chambrée et moi-même, bénéficié 3 jours par semaine des services d'une infirmière qui nous marqua. Son style, comme sa gouaille fleurie, ne nous laissèrent pas indifférents. Mieux, nous fûmes adeptes au point de guetter ses soins avec impatience. Elle pouvait peupler la Côte d'Azur en bonne place avec son allure un peu particulière, la bimbo parfaite. Les lèvres pulpeuses, exagérément soulignées, les yeux maquillés façon biche aux abois, la démarche chaloupée s'accordant en rythme au regard, les hanches qui se déboîtent à chaque pas, mettent en valeur des fesses gonflées à bloc, de longues jambes qui se croisent sans faire de nœud, la peau cuivrée à force de séances UV, les dents blanches parfaitement alignées, le sourire carnassier, le regard qui en dit long en laissant supposer, des manières qui en rajoutent, des ongles habillés comme à la parade, des mèches folles dingues, mais cependant gérer, bref, tout pour exciter le chaland, l'attirer, l'allumer, le laisser tomber mort d'amour. Nous marchions. Il y avait de la matière, nous la trouvions sympa. Chaque intervention s'accompagnait de frôlements, d'interpellations colorées. Alors, comment vont les comiques de la 7 ? Vous êtes encore là ? Quand je pense à ceux qui souffrent. Le plus dur pour moi, qui ne manquait pas d'imagination, était le contrôle. Hélas, avec l'abstinence, je m'étais trahi plusieurs fois. Contente avec ce petit air victorieux de ceux qui arrivent à leur fin, à vos dépens, elle cachait mal son éphémère succès. En rajoutait en ignorant ma bite tendue et se penchait davantage pour me faire admirer la naissance de sa poitrine implantée. Je ne trouvais pas l'expérience agréable. J'étais comme un enfant penaud face à ce qu'il croit être une bêtise. La honte de l'apprenti pubère au bord de la mer quand son slip se tend en présence de papa et de maman. Mais je ne lui en voulus pas. Le lavabo recueillait mon désir sans protester. Après avoir fait face à une addition qui ferait certainement trembler mes assurances, je fus libre de mes mouvements. Pas spécialement joyeux à faire des claquettes dans le désert avec un dromadaire, mais heureux de poursuivre ma quête, ma route incertaine, mon chemin et ses embûches. Je savais bien qu'il me suffirait de trouver le bon angle pour apaiser mes craintes comme pour calmer mes colères. Avant de partir, j'avais eu droit à de nombreux hugs. Je dois reconnaître qu'ils me comblèrent d'aise.
Ce gars m'épate. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais de remarques négatives ou de gentillesse malvenue. Il s'efforce de ne blesser personne, écoute ce qu'on lui dit sans en prendre ombrage quand ça l'ennuie. Il patiente sans s'agacer et d'un signe de tête met fin à la conversation. Ce mec, alors qu'il a la gueule défoncée, ne se plaint pas. Ici, c'est bien le seul. Le seul aussi à rire à toutes mes plaisanteries. Je le soupçonne d'ailleurs de se réjouir surtout du plaisir que je prends à dire des conneries. Ce qui tente à prouver, outre une alacrité de bon aloi, une certaine hauteur de vue. Parfois, il cherche ses mots, finit souvent par les trouver et chaque fois je suis surpris par la richesse de son vocabulaire. Ce qu'il ignore de cette langue qui n'est pas la sienne, il me le demande. Il apprend. Vite, très vite. Quand je lui fais remarquer, il s'auto-félicite. La fausse modestie, moyen d'exister pour un vaniteux, n'est pas son truc. Moi, j'adhère. Il plane un je ne sais quoi de tranquillité dans la pièce. À croire que nous sommes protégés des esprits chagrins. Il me laisse choisir les programmes les plus débiles. Rien ne semble l'atteindre, comme si les réflexes du quotidien, gestes autant que coutumes, n'ont pas d'incidence sur son humeur. Il se plie aux routines de l'établissement sans faire de commentaires, alors que la grande majorité des patients tuent le temps en crachant leurs remarques comme on vomit après avoir bu, sans aucun discernement. Compagnon de route idéal, d'accord pour participer, disponible sans être obéissant ou servile, mais refusant de prendre l'initiative. Il donne aux autres ce qui leur manque souvent, à savoir l'estime d'eux-mêmes. Pourtant, je crois qu'il a beaucoup à dire. Je le maudis parfois pour cela. Moi qui me targue de perspicacité, hurle à tout va mes dons de psychologue, pense jauger un homme en un clin d'œil, sans me tromper, je fais chou blanc. Pire, je sens bien que jamais je ne saurai à qui j'ai affaire. C'est peut-être mieux ainsi. Ce genre d'homme doit cacher quelque chose de terrible ou, pour le moins, est capable du pire.